Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Léridon et Rosalie Suc, mais aussi Hélène Lefrançois et Bertille Bourdon. On accueille d'ailleurs dans l'émission en stage à partir d'aujourd'hui Lucas Lazzo. Bienvenue Lucas. Aujourd'hui à la réalisation Benjamin Hu et à la technique Inès De Bruyne. Deuxième temps de notre volet consacré à la foi politique et au pouvoir religieux, après avoir évoqué hier les liens paradoxaux entre Donald Trump et les chrétiens évangéliques, avant d'aborder demain l'autoritarisme hindou de Narendra Modi et puis jeudi le schisme politique du côté de l'Iran et de l'Irak, tournons-nous aujourd'hui vers le nationalisme bouddhiste qui prospère, notamment du côté de la Birmanie et du Sri Lanka, de Rangoon à Colombo. Quand le bouddhisme se fait nationalisme, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
À partir d'aujourd'hui, si un musulman ou un autre étranger s'en prend à un Singhalais, il mourra.
Ils construisent de plus en plus de mosquées et essaient d'obtenir une influence politique et un pouvoir politique.
Aujourd'hui dans le monde, des terroristes font exploser des bombes de différentes façons. Nous craignons qu'ils ne détruisent notre patrimoine ethnique, nos monuments religieux et notre peuple. Ce n'est pas nous qui avons changé, ce ne sont pas les bouddhistes qui ont changé, ce sont les musulmans, certains fidèles de l'islam.
Les musulmans sont venus illégalement en Birmanie, c'est un problème. Ce sont des réfugiés, ce ne sont pas des citoyens birmans. Le Bangladesh est leur pays d'origine, ils doivent rentrer chez eux.
Loin de l'image de non-violence et d'ouverture auquel l'associent presque toujours les Occidentaux, le bouddhisme prend dans certains pays le visage d'une religion hégémonique hostile aux autres cultes. C'est le cas en Birmanie, où les Rohingyas musulmans sont depuis de longues années victimes de persécutions, mais aussi du côté du Sri Lanka, de Rangoon à Colombo, la même rhétorique est à l'œuvre. Le bouddhisme serait menacé. Et ses adeptes, comme les dirigeants des pays où il est majoritaire, ont le devoir de le protéger, s'il le faut, par la violence. Ce discours a servi différents combats à travers l'histoire, de la lutte pour l'indépendance de la Birmanie dans la première moitié du XXe siècle, à la guerre civile contre les séparatistes tamouls au Sri Lanka, au tournant du XXIe siècle. Mais aujourd'hui, dans un pays comme dans l'autre, c'est contre les musulmans qu'ils se tournent prioritairement. Alors comment ce discours de haine, porté par les nationalistes birmans et sri-lankais, s'articule-t-il avec les principes de non-violence professés par le bouddhisme? Pourquoi cible-t-il en particulier les musulmans? Dans quelle mesure s'inscrit-il au sein d'un ensemble plus large de tensions interconfessionnelles dans ces pays multiethniques? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Éric Paulmeyer. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, professeur émérite à l'INALCO. Et puis auteur notamment l'année dernière d'une réédition, une histoire de l'Inde, les Indiens face à leur passé. Mais vous connaissez également très bien le Sri Lanka. Sri Lanka, vous dites, vous n'utilisez pas d'article. Également avec nous ce matin, Bénédicte Braque de la Perrière, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous également. Vous êtes ethnologue, chercheuse CNRS au CAS, le Centre d'Asie du Sud-Est de l'EHESS. Vous êtes, vous, une spécialiste de la Birmanie et on va faire des allers-retours justement entre ces deux pays. D'abord, peut-être une question un peu générale sur les deux, parce que c'est vrai que vu d'Occident, je le disais dans mon introduction, le bouddhisme, ce serait en tout cas une religion intrinsèquement pacifiste, intrinsèquement non violente, faite de prières et d'offrandes. C'est évidemment en partie le cas, mais il n'est pas épargné par la xénophobie et le nationalisme. Il peut arriver que Bouddha soit instrumentalisé. Au fond, tout cela dépend avant tout des contextes culturels, politiques dans lesquels il s'enracine, Éric Paulmeyer.
Bien sûr. Alors, il faut remonter quand même dans le passé. Le message du Bouddha est un message qui a été diffusé bien avant le début de l'ère chrétienne. Et certainement, le bouddhisme a évolué énormément depuis ces périodes anciennes. Il s'est implanté et il a disparu d'un certain nombre de pays. Et c'est précisément le fait qu'il ait disparu de l'Inde, du pays où il est né, qui a créé chez les bouddhistes, ou chez un certain nombre de bouddhistes, le sentiment que le bouddhisme est une religion qui est sans cesse menacée. Et c'est autour de cette image d'une religion menacée, mais maintenue, préservée dans certains pays, notamment Sri Lanka, mais aussi la Birmanie, la Thaïlande, peut-être le Cambodge. Et là, on parle du bouddhisme Theravada, du bouddhisme qui se considère comme le plus fidèle aux paroles originales du Bouddha. Cette histoire extrêmement longue et qui a vu effectivement le bouddhisme disparaître ou s'effacer, mais peut-être qu'il n'était jamais vraiment si implanté que cela en Inde. C'est de cette histoire qu'on a tiré, que on, c'est-à-dire un certain nombre d'intellectuels bouddhistes du 19e siècle, ont tiré une image de bouddhisme comme menacée par toutes les religions. À l'origine, c'était plutôt le christianisme des colonisateurs.
Voilà pour la perspective historique. Bénédicte Braque de la Perrière, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est aujourd'hui dans un moment particulièrement propice justement à l'instrumentalisation de ce bouddhisme de la part de forces nationalistes dans cette région d'Asie du Sud-Est, où finalement, eh bien, cette religion bouddhiste, elle a toujours plus ou moins fait l'objet d'une instrumentalisation de la part des pouvoirs politiques, en tout cas dans la période contemporaine, et au fond, rien de neuf.
Non, rien de neuf. Elle a toujours fait l'objet, effectivement, d'une instrumentalisation, encore que bon, ce soit une manière rapide de dire les choses. Historiquement, les relations entre les ordres politiques et les ordres religieux dans cette région ont toujours fait l'objet de fluctuations en fonction du pouvoir politique, de la force de ce pouvoir. Dans ce cas-là, les analystes de ce type de régime ont parlé de symbiose, voire de symbiose antagoniste entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et dans les cas où le pouvoir politique est trop faible, et bien souvent le renouveau du pouvoir politique partait de l'ordre religieux.
Mais est-ce que tous les pays de la région sont touchés par ce bouddhisme radical dont on va parler ?
Je pense qu'il y a toujours une... en attendant à Birmanie, c'est très clair, au Sri Lanka aussi, en Thaïlande aussi. Oui, je pense qu'il y a une forme de radicalisme dans tous ces pays.
Éric Pollmeyer, parlons donc du Sri Lanka. Rappelons que c'est un pays qui a été le théâtre récemment d'une guerre civile d'un peu plus de 25 ans, qui a commencé en 1983, en réalité un peu avant, mais bon, on la délimite comme ça, 83-2009, 100 000 morts à la clé, sans compter les blessés. Il se trouve qu'en novembre dernier, Éric Pollmeyer, un nouveau président a été élu, Gotabaya Rajapaksa. Il a été élu après avoir beaucoup insisté sur la question de la lutte contre l'islamisme. Alors, rappelons peut-être, on en a beaucoup parlé à ce micro, que l'année dernière, il y a eu des attentats revendiqués par Daesh qui ont touché notamment des églises. Donc, on a assez largement surfé précisément sur cette islamophobie latente du côté du Sri Lanka. Est-ce que cette victoire de Rajapaksa, c'est une conséquence directe de ces attentats d'avril 2019 ? Et est-ce qu'on peut parler dans ce cas précis de nationalisme bouddhiste ?
Alors, la victoire de Gotabaya Rajapaksa, parce qu'il y a deux Rajapaksa. Gotabaya, c'est le frère de Mahinda, qui a été président antérieurement entre 2005 et 2015. Et donc, Gotabaya a effectivement surfé sur l'anti-islamisme, c'est peut-être pas le mot, mais en fait, ce sentiment de la majorité de la population singalaise d'être menacée. Alors, en réalité, la guerre civile à laquelle vous avez fait allusion, c'est une guerre civile qui opposait des séparatistes tamouls à la majorité, ou tout au moins au gouvernement, en majorité singalais, qui représentait donc 70% de la population. Mais il faut bien voir que les séparatistes de Tamoul n'étaient pas du tout animés par un esprit religieux. Il y a parmi les Tamouls, aussi bien parmi les gens qui parlent le tamoul, aussi bien des musulmans que des hindous et des chrétiens. Donc là, durant cette période antérieure, en fait, l'ennemi, c'était le séparatisme. C'était l'idée que cette île que les bouddhistes se représentent comme l'île de la doctrine, l'île du Dhamma, était menacée d'être coupée. Après la fin de la guerre sanglante, tout à fait sanglante en 2009, finalement cet ennemi avait disparu. Et il a fallu s'en trouver un autre. L'autre ennemi, c'était un ennemi tout trouvé, les musulmans. Les musulmans qui représentent entre 7 et 9% de la population, leur pourcentage de population a un peu augmenté, et qu'on a pu accuser de toutes sortes de maux. En particulier, les musulmans étaient accusés de voler la richesse du pays. Ils sont en grande majorité commerçants. Ils étaient accusés de... On les accusait d'avoir beaucoup d'enfants et de submerger la population singalaise, ce qui est parfaitement ridicule, hein, de submerger la population singalaise. Donc, ces musulmans étaient une cible visible après la fin de la guerre. Et donc, Gotabaya Rajapaksa a largement utilisé cela en utilisant une organisation qu'on appelle la Bodu Balasena, dont on va sûrement reparler, et qui lui a servi d'instrument dans sa prise de pouvoir.
Il y a peut-être un lien à faire, Bénédicte Braque de la Perrière, entre le Sri Lanka et la Birmanie, parce que Éric Paulmeyer nous rappelait qu'en réalité, durant la guerre civile, au fond, il n'est pas tant question de religion, mais de séparatisme, voire même d'idéologie. D'une certaine manière, en Birmanie, c'est aussi le cas. C'est-à-dire, on va largement en parler. Il y a évidemment, bien sûr, une islamophobie qui est réelle et une violence très forte vis-à-vis des musulmans et des Rohingyas en particulier. Mais si on regarde, par exemple, l'état de l'Arakan, l'état Arakan, dites-vous, vous non plus, vous ne dites pas l'article. Hein.
Non, l'état voilà. Arakanais, en fait.
L'état Arakanais.
Ou le Rakhine.
Voilà, il y a aussi, là, derrière, des questions de séparatisme. C'est-à-dire qu'il y a aussi une ambition indépendantiste qui produit une forme de violence. Il y a évidemment la question du rejet de l'islam, mais il y a aussi cela derrière qui explique toutes ces violences.
Oui, évidemment. Mais le parallèle, je le ferai plutôt dans le développement d'une armée qui a pris des proportions assez importantes du fait des rébellions ethniques tout autour de la Birmanie et donc qui a développé cette force de manière institutionnelle et dans la réalité. Pour ce qui est de l'Arakan, la situation est un petit peu différente dans la mesure où l'Arakan lui-même est séparatiste. C'est-à-dire qu'il y a eu des mouvements, surtout après la Seconde Guerre mondiale, de séparation des Arakanais. Ils ont obtenu donc la formation d'un État au sein de la Fédération birmane, ces revendications ont été plus ou moins gommées pendant toute la fin des juntes militaires, là, elle réapparaît avec l'émergence d'une nouvelle rébellion ethnique, celle de l'armée arakanaise, qui n'est pas celle des Rohingyas. Donc, on a cet aspect-là des choses, et il y a aussi cette présence d'une forte minorité musulmane au nord de l'Arakan qui revendique le nom de Rohingya qui réclamait en fait un statut d'ethnie nationale, c'est-à-dire qui aurait le droit de citoyenneté à l'intérieur de la Birmanie, ce qui leur a été refusé depuis de longues années. Donc, la situation de l'Arakan est complexe de ce point de vue-là.
Éric Paulmeyer, si l'on revient sur le Sri Lanka, vous rappeliez un petit peu tout à l'heure le paysage ethnique et confessionnel. C'est un pays qui est composé à majorité de bouddhistes, à peu près 70%, d'hindouistes, environ 12%, un peu plus de 9% de musulmans et 7% de chrétiens. Ça peut un peu changer, les chiffres sont pas parfaits, mais en gros, c'est à peu près ça. Quand on écoute ce que disent les Sri Lankais à propos de ce sentiment anti-musulman, il y a un argument qui revient parfois. Alors, je l'ai lu beaucoup dans la documentation pour préparer cette émission, mais il se trouve que j'ai aussi eu l'occasion de l'entendre de mes propres oreilles lorsque j'y suis allé. C'est que les Sri Lankais expliquent que les musulmans auraient un peu changé ces dernières années, que en tout cas leur présence dans l'espace public serait plus ostentatoire et que peut-être même la nature même de l'islam sri-lankais, si tant est qu'il en existe un, aurait changé, qu'il aurait été wahhabisé.
C'est exact.
Qu'en est-il justement de ce glissement de nature de l'islam sri-lankais? Est-ce qu'il a effectivement subi l'influence de l'Arabie saoudite?
Il a fortement subi cette influence. Et ça, c'est lié à l'émigration de travail d'un certain nombre de musulmans sri-lankais qui sont allés travailler dans les pays du Golfe et qui sont revenus à Sri Lanka et ont cherché à, disons, transformer ils ont commencé par le critiquer et ensuite transformer les pratiques de l'islam sri-lankais, qui étaient des pratiques fondées sur le soufisme, en fait. C'est-à-dire une forme d'islam qui est une forme mystique, qui est fortement implantée dans des sanctuaires locaux, où sont révérés des saints, en tout cas des personnages qui sont considérés comme des sages dans l'islam. Et cet islam traditionnel, qui était tout à fait pacifique, irénique, a changé sous l'influence de ces jeunes musulmans revenus des pays du Golfe, et aussi sous l'influence des financements qui ont permis la construction de nouvelles mosquées, notamment.
Mais est-ce qu'il a porté atteinte à l'unité nationale?
Non, pas du tout. Il a touché d'abord l'islam lui-même. Et en fait, la ville de Katankudi, qui est la ville où s'est développé le mouvement qui serait à l'origine des attentats de Pâques, est une ville dans laquelle précisément se sont trouvées concentrées ces tensions à l'intérieur de la communauté musulmane. Les imams de Katankudi ont dénoncé au gouvernement, il y a 7 ou 8 ans, cette dérive.
Bénédicte Braque de la Perrière, est-ce que c'est aussi un argument que l'on entend du côté de la Birmanie, à savoir le fait que la nature de l'islam en Birmanie aurait changé et que c'est la raison pour laquelle, au fond, on s'en prendrait à eux, aux musulmans?
Non, ce n'est pas, ce n'est pas un argument dans ce qui s'est passé récemment en Birmanie. Ce qui ne veut pas dire que l'islam birman ne change pas, qu'il n'y ait pas non plus des financements qui arrivent de l'étranger. Mais enfin, on ne note pas cette influence forte du wahhabisme. Ceci dit, l'islam birman est très mal connu. Donc,
si on regarde un tout petit peu Éric Pollmeyer, avant de faire vraiment la part belle, j'allais dire, à la Birmanie, si on regarde la constitution sri-lankaise, est-ce qu'il y a un statut à part pour le bouddhisme, et si c'est le cas échéant, lequel ?
Certainement. La constitution, depuis que Ceylan s'est transformé en république sri-lankaise, c'est-à-dire depuis 1970, a intégré dans sa constitution un article qui prévoit que le bouddhisme est une religion qui doit bénéficier du soutien et de la reconnaissance de l'État. Ce n'est pas la religion de l'État, c'est-à-dire que, par exemple, le président de la République peut parfaitement être musulman, chrétien ou hindou. Mais le bouddhisme doit être protégé par l'État, et là, on se cale, en fait, la constitution sri-lankaise se cale sur la tradition monarchique, dans laquelle les rois étaient les protecteurs du bouddhisme. Et les bouddhistes, les moines bouddhistes, étaient ceux qui, d'un sens, légitimaient l'autorité du roi. Donc là, il y a quelque chose qui a été une sorte de réinvention de la tradition en 72. Les autres religions ont une liberté totale d'exercice. Mais c'est là que finalement la question rejoint celle de ce qui se passe en Inde. Certains groupes politiques, notamment celui de l'actuel président, ont envisagé d'interdire les conversions du bouddhisme à d'autres religions, en les considérant comme conversions illégales et injustifiables. Mmh. Et là, on a exactement la même chose que ce qu'on constate dans l'Inde actuelle.
Tout à l'heure, Éric Pollmeyer, vous avez fait allusion à une organisation qui s'appelle la Bodhu Bala Sena, je ne sais pas si je prononce correctement, exact, qu'on pourrait traduire par l'armée de la force bouddhiste. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est cette organisation, quand est-ce qu'elle a été fondée, quelle influence elle a sur les partis politiques et peut-être en particulier sur l'actuel pouvoir?
Alors c'est une organisation qui est une dissidence d'un parti qui avait été fondé antérieurement dans les années 90, qui s'appelait le Jatika Hela Rumaya, c'est-à-dire le front, disons, de la race singhalaise. Et cette organisation n'est pas une organisation qui vise, comme celle dont il est issu, à faire élire des députés, mais c'est une organisation qui a été créée par des moines qui cherchent à, disons, affirmer la puissance des bouddhistes, et notamment de leur groupe, contre d'abord les missionnaires évangéliques chrétiens d'origine souvent américaine ou sud-coréenne qui, notamment en milieu urbain, ont créé beaucoup de petites églises et font des conversions. Mais à partir des années, disons, 2010-2014, cette organisation s'est principalement, a principalement dirigé ses coups contre les musulmans. Alors, elle est dirigée par des moines qui, d'ailleurs, ont déclaré que depuis que le nouveau président Gotabaya Rajapaksa était élu, s'il allait jusqu'au bout de son programme, eh bien, elle n'aurait plus de raison d'être. Donc on voit très bien les liens entre les deux. Cette organisation utilise les services de malfrats, d'hommes de main, qui vont casser tout simplement les chapelles chrétiennes et qui organisent ou déclenchent des violences, notamment dans les quartiers commerçants. Alors, il faut voir qu'il y a aussi un lien entre des commerçants, des rivalités commerciales entre musulmans et Saint-Galais qui peuvent aboutir finalement à ce genre de violence.
Le programme du président Rajapaksa, s'agissant de la question musulmane, évidemment, lequel est-il ?
Alors, le programme, c'est de considérer que les musulmans doivent faire profil bas, mais il n'a pas de programme très défini parce que pour l'instant, il y a des élections législatives qui doivent avoir lieu. Et donc, pour l'instant, la situation est une situation d'attente.
À la direction de la Birmanie, on va écouter Aung San Suu Kyi.
Nous espérons que ce sera le début d'une ère nouvelle dans laquelle le rôle du peuple aura plus d'importance dans la vie politique de notre pays. Nous espérons aussi pouvoir avancer sur la route de la réconciliation nationale. Nous accueillerons tous les partis voulant nous rejoindre pour aider à apporter paix et prospérité à notre pays.
Voilà, nous sommes en avril 2012, au siège de la Ligue nationale pour la démocratie. Aung San Suu Kyi fait son premier discours après les élections parlementaires remportées par son parti. Quelques semaines plus tard, des violences interethniques très intenses vont éclater dans l'état de l'Arakan, sur la côte occidentale, entre les communautés bouddhistes et musulmanes. Et puis, un peu plus tard, évidemment, 2016-2017, les Rohingyas, minorités musulmanes, vont être victimes d'une nouvelle vague de persécutions. Fin 2017, le bilan fait état de plus de 640 000 Rohingyas qui ont trouvé refuge au Bangladesh voisin pour fuir ce que l'ONU qualifie alors d'épuration ethnique. Bénédicte Braque de la Perrière, quel lien établir entre le drame des musulmans Rohingyas et l'extrémisme bouddhisme ? Et puis ensuite, on verra le lien à faire ou pas avec l'ouverture démocratique. Mais dans un premier temps, jusqu'où est-ce qu'on peut relier ces violences à l'égard des musulmans avec l'extrémisme bouddhiste en Birmanie ?
Il faut regarder les choses ensemble, je crois.
Alors faisons-le.
Si je peux me permettre. Alors faisons-le. Parce que je voudrais repartir sur l'histoire de la Constitution. Et il y a une petite différence entre la Constitution birmane et la Constitution sri-lankaise de ce point de vue-là. C'est que le bouddhisme n'est pas... Il y a aussi une ambiguïté, mais elle n'est pas formulée de la même manière. C'est-à-dire que la liberté de foi est reconnue pour tous les citoyens. Mais le bouddhisme est aussi affirmé comme la religion du plus grand nombre. Cependant, il n'y a pas d'obligation de protection. Et c'est en fait une des choses que les moines les plus radicaux réclament, la protection du bouddhisme par l'État, par le gouvernement. Et ça s'est traduit par une série de lois dont on reparlera probablement. Mais alors pour ce qui est de ce qui s'est passé... alors il y a ça et il y a le fait que les moines n'ont pas le droit de vote et ne peuvent pas former de parti, donc ils sont complètement
en théorie à la marge de la vie politique,
absolument. Et ce qui s'est passé en 2012-2013 dans les monastères était une véritable effervescence. C'est pas l'ensemble des moines évidemment, mais c'était un mouvement qui donnait de la voix, qu'on voyait actif, qui se demandait quel allait être le rôle des moines dans cette nouvelle situation, puisque un régime civil avait été mis en place et qu'on allait vers... Enfin, on était dans une phase de transition démocratique. Mmh. Et manifestement...
Et donc ça veut dire que l'ouverture démocratique a largement favorisé l'expression de ce nationalisme bouddhiste, très clairement.
Évidemment. Mmh. Non seulement parce que ça a créé une insécurité et un questionnement des moines sur leur place dans cette nouvelle situation, mais aussi parce qu'il y a eu une libéralisation de la presse, mais aussi parce que les moines se sont mis à prêcher dans des dimensions qu'on n'avait pas vues depuis extrêmement longtemps, et prêcher un discours de type nationaliste, et notamment un discours anti-musulman, à la suite des premières des premiers incidents en 2012 en Arakan.
Alors, Bénédicte Braque de la Perrière, il y a évidemment une question que tous les observateurs se posent depuis maintenant des années, c'est la posture d'Aung San Suu Kyi, qui a été très critiquée par son, disons, sa retenue, voire carrément son mutisme à l'égard des Rohingyas. D'ailleurs, c'est un terme qu'elle rejette, il n'y a pas de Rohingyas, et ça c'est intéressant parce que ça s'inscrit parfaitement dans la rhétorique extrémiste bouddhiste par laquelle, au fond, ce seraient les musulmans qui auraient inventé ce terme pour créer un groupe ethnique, mais qu'en réalité, il n'a pas de raison d'être, que ce sont des gens qui sont venus du Bangladesh voisin, et donc ce sont des Bengalis et absolument pas des Rohingyas. Comment comprendre cette posture d'Aung San Suu Kyi dans tout ça, dans cette crise?
Pour comprendre sa posture, il faut comprendre sa situation politique. Elle est la constitution est une constitution hybride qui garde un pouvoir assez important aux militaires. Ils ont non seulement le droit de nommer 25% des députés, mais ils ont aussi trois ministères centraux que sont la sécurité, le ministère de l'Intérieur et la Défense. Donc avec ça, ils ont un pouvoir très important et aussi un pouvoir de veto sur toutes les modifications de la Constitution. Donc ça, c'est quelque chose qui impacte énormément le fonctionnement politique de ces dernières années. Et on peut dire qu'elle est dans une situation où elle a... une fois que son parti a été élu, la Ligue nationale pour la démocratie en 2015, parce qu'en 2012 c'était seulement des élections partielles, mais en 2015, donc quand son parti est élu.
Oui, mais justement, les observateurs avaient dit jusqu'à 2015, on peut comprendre parce qu'effectivement elle est bloquée politiquement, elle a besoin de remporter ses élections, mais après on ne comprend plus son comportement, on ne comprend plus pourquoi elle ne dénonce pas les exactions à l'égard des musulmans, on ne comprend pas pourquoi elle refuse de parler des Rohingyas alors que c'est bel et bien un groupe existant. Elle est complètement dans cette rhétorique extrémiste bouddhiste et on ne comprend pas pourquoi.
Elle est prise dans une rhétorique extrémiste qui est à ce moment-là dominante en Birmanie. Il faut voir s'opposer à ce discours-là en Birmanie était quasi impossible jusqu'en 2015. Et c'est quand même après l'élection de la NLD que petit à petit les mesures ont été prises, mais très prudemment, très lentement, pour interdire le Mabata, interdire Wiratu, qui était la voie principale du Mabata, le Mabata étant cet organe du nationalisme bouddhique dont on parle
on va y revenir. En ce moment. Éric Paulmeyer, réaction sur ce cas birman.
Le cas birman est particulier dans la mesure où c'est effectivement une présence très forte de l'armée. L'armée sri-lankaise, elle, est d'une création beaucoup plus récente. C'est une armée qui s'est développée durant la période de la guerre contre le séparatisme tamoul. Et les militaires sri-lankais regardent avec envie du côté de la Birmanie et aimeraient beaucoup pouvoir prendre le contrôle d'un certain nombre d'organismes. C'est notamment le cas de la police. Et au cours des dernières semaines, la police, les organismes de police qui dépendaient du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Justice, suivant les cas, sont passés sous le contrôle du ministère de la Défense. Et donc des militaires. Donc les militaires sri-lankais sont des militaires qui n'ont pas du tout les traditions des militaires birmans qui sont là au pouvoir depuis des décennies, mais il y a cette, ce désir de s'imposer de la même façon. Et ils ont des liens très forts avec l'actuel président.
Après les élections de 2015, on va prendre un certain nombre de mesures, de lois, Bénédicte Braque de la Perrière, pour justement répondre aux aspirations, aux inquiétudes de ces bouddhistes radicaux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots justement ces fameuses lois de protection, je mets des guillemets, de l'identité bouddhiste?
C'est avant 2015.
C'est avant 2015, juste avant
et
les élections.
Et justement, ça fait partie de la campagne électorale. Et c'est un des éléments
bien
de compréhension.
Le micro, s'il vous plaît.
C'est un des éléments de compréhension de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on était en campagne électorale et ces mouvements nationalistes bouddhiques, les premiers qu'on a appelés 969, qui ont été interdits en tant que tels, qui se sont reformulés dans un mouvement qu'on appelle le Mabata. Ça veut dire l'Association pour la défense de la religion et de la nation. D'autres le traduisent race, mais je préfère nation parce que c'est ambigu en birman et ça dit mieux ce que c'est finalement. Donc ce mouvement-là a commencé une propagande assez forte par le biais de la prédication qui s'est développée donc d'une manière très très remarquable pendant les années 2013, 2014, 2015 et apparemment avec le soutien du parti issu des juntes militaires, l'USDP, qui était au pouvoir, ou de certains de ses épigones au moins, ils ont commencé à rédiger un ensemble de 4 lois qui ont pour objectif donc de protéger le bouddhisme selon le programme de ces moines, en notamment régulant la conversion, le mariage interconfessionnel, des questions de natalité. Et ces 4 lois donc ont été passées juste avant les élections de 2015. La dernière loi a été signée d'une manière extrêmement rapide en août 2015. Et ça a donné lieu à une série de meetings, de célébrations des lois organisées par le mouvement, le Mabata, dans lequel ont été données des consignes de vote anti contre Aung San Suu Kyi et son parti.
Il y a eu des lois comparables, Éric Pollemeyer, du côté du Sri Lanka?
Non, il n'y a pas eu de loi comparable parce qu'en fait, le Sri Lanka a une tradition parlementaire très forte. Et disons qu'en dépit des violences, en dépit des guerres, en dépit des atteintes constantes aux droits de l'homme, cette tradition parlementaire a fait que une officialisation du type de celle qui s'est produite en Birmanie à Sri Lanka ne s'est pas produite.
Si c'est un parlement où il peut se passer des choses un peu étonnantes, hein. Il y a eu pendant quelques mois deux premiers ministres.
Voilà, et puis il y a des bagarres en pleine séance. Hein. Donc ça, c'est pas. Mais il n'empêche que on n'est pas dans une logique dans laquelle l'armée ou un groupe pourrait absolument imposer ce type de législation. Ceci dit, bon, tout est ouvert, hélas, peut-on dire. Et il est possible que dans les mois ou les années à venir, ce type de législation soit faite.
Soit prévue. Bénédicte Braque de la Perrière, vous évoquiez tout à l'heure le mouvement Bharata. Avant ce mouvement-là, il y a eu un autre mouvement qui s'appelait le mouvement 969, qui a été créé par un homme dont on va parler dans un instant, Achin Viratu. Vous pouvez nous dire en quelques mots qui est cet homme, son rôle dans les violences confessionnelles de ces 10-15 dernières années?
Ouiratu, c'est un moine birman qui vient d'une région de Birmanie proche de Mandalay. Il a maintenant un peu plus d'une cinquantaine d'années, je pense. Donc, il fait partie d'une nouvelle génération de moines, je dirais, qui a cherché les voies d'une plus grande autonomie à partir du début des années 2000. Donc, il y a certains qui se sont lancés dans la prédication, il y en a d'autres qui se sont lancés dans l'action caritative, d'autres qui ont développé des activités de méditation à destination des laïcs. cela dans un contexte où l'ordre religieux, le Sangha, avait été verrouillé, contrôlé extrêmement rigoureusement par les premiers régimes militaires, celui de Ne Win, et après avait été un peu corrompu par la politique des juntes depuis les années 1990. Donc il est dans ce genre de contexte. Et il est emprisonné une première fois en 2003, je crois, parce qu'il a déjà un discours de haine anti-islamique. Ce moine est libéré, comme tous les prisonniers de conscience, enfin comme beaucoup de prisonniers de conscience, en 2012. Et il se lance à ce moment-là. C'est le moment des premiers incidents en Arakan, première campagne de violence en Arakan. Et il est très vite impliqué dans ce qui va suivre, qui est une campagne de boycott des commerces musulmans, qui a été appelée 969 parce qu'ils ont demandé au public et notamment aux commerçants d'afficher sur leur commerce le chiffre 969 pour signifier qu'ils étaient bouddhistes et qu'on pouvait y acheter. Et empêcher que les gens achètent donc dans les commerces musulmans.
On était avec vous, Bénédicte Braque de la Perrière, et vous, Éric-Paul Meyer, dans cette semaine consacrée à la foi politique et au pouvoir religieux de Rangoon à Colombo, quand le bouddhisme se fait nationalisme. On va justement continuer à parler de ce vénérable moine, vénérable W, c'était le titre d'un documentaire dont on va retrouver dans un instant le réalisateur. Extrait.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
J'ai écrit deux sermons sur les poissons-chats d'Afrique. Les caractéristiques des poissons-chats d'Afrique sont les suivantes. Ils grandissent très vite. Ils se reproduisent très vite aussi. Et puis ils sont violents. Ils mangent leur propre espèce et détruisent les ressources naturelles de leur environnement. Et les musulmans sont exactement comme ce poisson.
Voilà, extrait du Vénérable W, sorti en 2017. C'est un documentaire qui clôt une trilogie du mal dans laquelle le cinéaste Barbet Schroeder présente Jacques Vergès, Amin Dada, et puis enfin donc ce moine bouddhiste nationaliste et islamophobe Achin Viratou. On va retrouver justement Barbet Schroeder, bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour.
Beaucoup d'être avec nous ce matin par téléphone. Vous êtes donc cinéaste et réalisateur de ce documentaire dont on vient d'entendre un extrait, le Vénérable W, sorti en 2017. C'est assez stupéfiant de voir le succès qu'a rencontré ce moine, l'un des principaux leaders, sinon le principal de cet extrémisme bouddhiste birman. Or, quand on le voit, quand on l'entend, Barbet Schroeder, il n'a pas l'air si charismatique, il semble pas être doté d'une intelligence supérieure, et pourtant, il est l'incarnation donc de ce mal, celui qui va déclencher cette vague de violence à l'égard de musulmans. Est-ce que vous avez le sentiment, après avoir réalisé ce long travail sur cet homme, qu'il porte une responsabilité personnelle, ou est-ce que finalement un autre que lui aurait pu produire à peu près cette même mécanique de la violence, Barbet Schroeder?
Ben, c'est un peu comme le problème de l'antisémitisme et de Hitler. Ça existait avant, mais il a trouvé les mots pour vraiment bien exploiter la chose. Il a découvert un filon. Il appelait d'ailleurs ça nationalisme. Son anti-islamisme, il l'appelait du nationalisme. C'est un peu comme Trump aussi, il utilise le mot de nationalisme tout le temps pour couvrir des politiques qui sont souvent anti-noires. Mmh. Donc c'est le racisme se cache vraiment quand on voit le film. D'ailleurs, quand on entend le passage que vous venez de jouer, on comprend tout de suite qu'on a vraiment affaire de quelqu'un de vraiment extrême, tellement extrême que les militaires l'ont mis en prison parce qu'ils le considéraient, même eux, qui étaient pourtant pas détendre, ils le considéraient, même eux le considéraient comme dangereux.
Alors justement, ce point est important, je voudrais vous entendre là-dessus, et ensuite je donnerai la parole à Bénédicte Braque de la Perrière pour analyser un peu la chose, parce que effectivement il y a un moment où la radicalité de ces discours vont conduire les autorités à le mettre en prison, mais en réalité cette incarcération et cette entrée en clandestinité de ces idées, et notamment à travers ce texte intitulé La peur de la disparition de la race qu'il avait écrit quelques années auparavant, et bien tout cela va trouver au fond un écho assez inédit. En réalité, ça va lui donner une notoriété assez inespérée, et c'est à partir de là peut-être que ces discours nationalistes vont se propager à une beaucoup plus grande vitesse. Est-ce que d'une certaine manière, là, il n'y a pas... difficile de parler de responsabilité, parce qu'on comprend bien que les autorités ont fait ça pour essayer de contenir précisément ce nationalisme bouddhiste parce qu'ils le considéraient dangereux, mais on a l'impression qu'il a été au fond renforcé aussi par cela. Barbet Schroeder.
Non, en fait, il y a vraiment une... c'est vraiment la technologie moderne qui est là à examiner. Ses premiers discours, ses premières actions... de prosélytisme ont été faits par des tracts qui étaient distribués dans les marchés avec des phrases, des choses qui touchaient vraiment tout le monde, qui étaient dérangeants et qui les poussaient à l'émeute s'il y avait une émeute. Ensuite, il est passé au stade où il distribuait en mini-cassette ses discours. Et ses discours étaient donc diffusés beaucoup plus largement. Après ça, il est passé au DVD. Et il y avait une véritable petite fabrique, que je montre d'ailleurs un film, où on emballait les discours. Et l'un des discours les pires de mon film, c'est un discours qu'il a filmé lui-même et qu'il a distribué lui-même. Et c'est un des moments les plus terrifiants de mon film, c'est quand on l'entend dire, il est tout jeune, et il parle à des milliers de moines bouddhistes assemblés, et il leur dit on va s'arranger pour que les gens ne puissent plus, pour que les musulmans ne puissent plus vivre, ne puissent plus manger, ne puissent plus dormir dans notre ville. Et ce genre de paroles-là sont très bien dites d'ailleurs, il est très talentueux comme orateur, il n'est pas si bête qu'il en a l'air, donc d'autant plus dangereux. Et donc, il avait tout un public grâce à cette diffusion de DVD. Ensuite, on est passé à l'Internet. Et là, ça a été terrible, évidemment, parce que ça a déchaîné sa popularité. Et c'est à mon avis, c'est ça qui l'a vraiment beaucoup aidé. Et... voilà, c'est la raison pour laquelle il était en prison, c'est parce que c'était la première émeute dont il était responsable. D'ailleurs, ce discours que je viens de citer était fait 3 semaines avant cette émeute. Et c'était la première émeute où il y avait du sang versé. C'était son premier sang versé. Et il se trouve que son maître, qui était aussi parti des interviewés du film, était en prison avec lui. Mais c'est lui qui était plus important que son maître dans cette action.
Vous restez avec nous, Barbet Schroeder, s'il vous plaît. J'ai peut-être encore une ou deux questions à vous poser, mais je voudrais faire intervenir Bénédicte Braque de la Perrière et Éric Paul Meyer pour essayer de comprendre justement cette mécanique de la violence. Barbet Schroeder évoquait ce discours de 2003 dans lequel effectivement il dit aux moines « Attendez que je vous donne le signal, vous allez voir, on va organiser les choses, on va planifier les choses. » Ça sera pas comme en 1997 où au fond les violences étaient mal organisées, il n'y avait pas de leader. Là maintenant, je vais organiser les choses et vous allez voir, effectivement, les musulmans n'auront plus rien à manger, ils n'auront même plus de toit au-dessus de leur tête. Est-ce que ce discours confère la juste place qu'il a eue, triste place, mais juste place qu'il a eue dans cette mécanique de la violence, ou au fond, il y a peut-être bien d'autres choses qui expliquent tout cela, Bénédicte Braque de la Perrière, pardon.
Il y a une montée en puissance. À partir des événements de 2012, entre 2003 et 2012, il est en prison. Bon, là, les choses sont relativement contrôlées, mais quand le mouvement prend, c'est après les événements de d'Arakan, en 2012, quand il lance cette campagne 969, et effectivement, Barbet Schroeder a raison, il y a là une puissance des nouvelles technologies alliée à un investissement des moines dans la prédication. On voyait partout dans toutes les villes en vente des DVD des moines 969 qui donc prêchaient cette campagne de boycott des commerces musulmans. Donc ça a eu un impact. L'hiver 2012-2013 a été de ce point de vue-là extrêmement étonnant et a orchestré une montée en puissance de ce discours anti-musulman.
Éric Paulmeyer.
Oui, le parallélisme est frappant avec Sri Lanka, puisque c'est la même année que, avec les mêmes méthodes, la BBS a organisé des attaques contre des commerçants à Lautgama, donc dans le sud-ouest de Sri Lanka.
La BBS étant cette organisation que vous citiez tout à l'heure, bouddhiste sri-lankaise.
Voilà, c'est cela. Et en fait, ce type d'utilisation des technologies modernes est systématique et il s'abrite également, et ça c'est intéressant, dans des organismes qui ne sont pas qui se présentent comme centres culturels bouddhiques. Et ce sont des organismes qui sont développés dans les grandes villes. C'est un phénomène de Colombo ou des grandes villes qui l'entourent ou des grandes banlieues qui l'entourent. Ce n'est pas du tout un phénomène rural. En fait, le bouddhisme, qui était une religion rurale traditionnellement, est devenu une religion urbaine et a utilisé systématiquement des méthodes qui avaient été mises au point d'ailleurs par des missionnaires chrétiens très souvent. Et le résultat, c'est qu'effectivement, abrités dans des centres culturels bouddhiques qui pratiquent l'aide sociale, qui pratiquent l'accueil d'étrangers qui viennent se confronter et s'inspirer du bouddhisme oriental, eh bien vous avez ces méthodes qui sont pratiquées par des gens qui sont extrémistes.
Barbet Schroeder, il y a quelque chose de très frappant dans votre documentaire, c'est que on comprend parfaitement vers où tout cela va nous conduire, à savoir ces pogroms anti-musulmans, ce ciblage des Rohingyas de la population de l'État d'Arakan, qui ont dû fuir dans les pays voisins, essentiellement au Bangladesh, mais aussi au Pakistan ou encore en Thaïlande. Au fond, tout cela était parfaitement prévisible et rien n'a pu l'empêcher, Barbet Schroeder. Ni les autorités, évidemment, ni le gouvernement birman, ni l'ONU.
Oui, et même maintenant, la Cour internationale a beaucoup de mal à faire appliquer les décisions. Elle a demandé qu'on rétablisse l'internet dans les zones où les gens pourraient découvrir des mass graves, c'est-à-dire des endroits où beaucoup de gens ont été tués et qui ont été enterrés au cours de la répression. Il s'arrange vraiment, le gouvernement, pour empêcher les journalistes et les ONG de faire la vérité sur ce qu'on doit maintenant appeler, malheureusement, un génocide. C'est absolument effrayant de voir comment tout ça, comme il est difficile de faire sortir la vérité.
Merci beaucoup, Barbet Schroeder, d'avoir été avec nous ce matin par téléphone. Je rappelle que vous êtes donc le réalisateur de ce film, Le Vénérable W, qui était sorti en 2017. Un grand merci à vous.
Asiatic countries, Burma marches along the road to national independence. And in London, for talks with the cabinet, is General Aung San, Burmese nationalist leader, with his colleagues U Thut Thin and U Ba Pe. Burma's desire for independence, first recognized in her separation from India, now has added momentum in the Downing Street.
C'est une archive que l'on entend à l'instant de 1947, janvier 1947, qui évoque la figure du père d'Aung San Suu Kyi, c'est le général Aung San qui avait négocié l'indépendance de la Birmanie avec les Britanniques. Quelques mois plus tard, il sera assassiné alors qu'il est président de la Ligue antifasciste pour la liberté du peuple. Sri Lanka et la Birmanie, ils ont ça en commun, l'Empire britannique. La place du nationalisme bouddhiste dans ces mouvements de libération de part et d'autre, Bénédicte Barrique de la Perrière sur la Birmanie.
Effectivement, on ne peut pas comprendre ce développement du nationalisme bouddhique sans faire un peu d'histoire. Et l'histoire, c'est de manière vraiment essentielle, la colonisation britannique. Le fondement de la construction identitaire birmane date de cette époque-là, où les Britanniques interviennent en Birmanie. Détruisent la royauté birmane en 1885, et en détruisant la royauté birmane, eh bien, ils laissent l'ordre religieux, historiquement dépendant de l'ordre politique, comme on le disait tout à l'heure, sans soutien. Et à partir de ce moment-là, il y a une mobilisation des laïcs pour soutenir donc le Sangha, l'ordre religieux, et ça s'est fait à partir d'associations pour récolter des dons, pour surveiller les examens qui contrôlent le niveau des moines, toutes sortes d'associations qui sont la racine, en fait, des premiers mouvements nationalistes et qui visent à défendre le bouddhisme.
On voit la même mécanique du côté du Sri Lanka.
Le même phénomène s'est produit avec une colonisation beaucoup plus ancienne qu'en Birmanie, puisqu'elle a au moins un siècle de plus, sinon bien davantage, puisque les premiers colonisateurs sont les Portugais, arrivés au XVIe siècle. L'autre différence, peut-être, c'est qu'à Sri Lanka, la colonisation britannique s'est accompagnée d'une volonté de mettre en valeur certains éléments de la culture traditionnelle. Et notamment, ce sont les Britanniques qui ont encouragé la publication ou la redécouverte, plutôt la découverte par les Occidentaux, des grandes chroniques bouddhiques qui sont devenues en quelque sorte le texte fondateur pour les nationalistes bouddhistes du XXe siècle, qui permettent de dire que voilà, nous sommes les descendants des rois de l'Antiquité, des rois d'Anuradhapura, qui ont combattu tout au long du premier millénaire de l'ère chrétienne contre les Indiens qui venaient nous envahir, etc., etc. Mmh. Donc il y a tout un discours qui s'est construit à partir de textes qui ont été mis en valeur par les Occidentaux.
Merci beaucoup à nos deux invités de nous avoir éclairés ce matin sur ce bouddhisme radical du côté de la Birmanie et de Sri Lanka. Bénédicte Barrique de la Perrière, un grand merci d'avoir été avec nous. Éric Paulmeya également. Je rappellerai vous concernant une histoire de l'Inde, les Indiens face à leur passé, qui était paru chez Albin Michel. C'est en tout cas une réédition à l'année dernière. On mettra évidemment les références de vos ouvrages, mais aussi de vos articles à l'un et à l'autre sur la page de Culture Monde. On poursuivra demain notre série consacrée à la foi politique et au pouvoir religieux. Nous irons justement du côté de l'Inde, on parlera de l'hindouisme, ça sera pour demain, pour l'heure, presque 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Hier Brice, vous avez esquissé un parallèle entre deux écrivains pris dans la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale, Stefan Zweig et Sandor Mareuil. Aujourd'hui, les questions du journal de Mareuil, dont une sélection couvrant les années 43-48 vient de paraître, Brice.
Eh oui, et ce journal s'ouvre sur la décision prise par son auteur de ne plus écrire pour les journaux. Je cite « Aujourd'hui, la liberté de la presse a disparu et l'écriture journalistique s'est avilie jusqu'à ne plus exprimer qu'une opinion insipide et balbutiante sur les événements. Elle humilie et corrompt profondément l'écrivain. À présent, je dois me taire. On ne peut plus vivre en Hongrie autrement que dans une émigration intérieure. » Et désormais, en effet, Mareuil n'écrira plus que pour son tiroir. Une expression qu'on trouve dans toutes les langues d'Europe centrale. Elle signifie qu'il est devenu soit matériellement impossible, soit moralement indigne de continuer à publier ses écrits. Et c'est une situation qui leur a été plus d'une fois imposée par leur histoire troublée. Mais qu'est-ce qu'un écrivain dont les œuvres ne peuvent plus rencontrer de lecteurs ? Alors il faut savoir que l'année 1943, donc, marque un tournant dans l'histoire de la Hongrie. Sous la direction de l'amiral Horthy, ce pays s'était engagé dans la guerre aux côtés des Allemands en 1941, après avoir prétendu mener une politique de la balançoire entre les Anglo-Saxons et le pacte d'acier. Mais les élites hongroises désiraient éperdument récupérer les territoires perdus lors du traité du Trianon de 1920. Pour punir leur pays d'avoir déjà, durant la Première Guerre mondiale, combattu aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche, leur pays avait été amputé alors de 2/3 de son territoire. Au mépris du principe des nationalités, plus de 3 millions de Magyars vivaient dans un autre pays que la Hongrie, en Yougoslavie et en Roumanie en particulier. Mais cette affaire, instrumentalisée par Viktor Orban aujourd'hui, continue d'empoisonner la vie politique hongroise.
Et en janvier 1943, Brice, lorsque Marai entame la rédaction de son journal, l'armée hongroise, la deuxième armée hongroise, forte de 207 000 hommes, vient d'être anéantie par l'armée rouge. On est près de Voronej.
Sur le Don, oui. Eh oui, les élites gouvernantes à Budapest commencent alors à réaliser qu'elles ont misé sur le mauvais cheval. Le premier ministre Kalai envoie des émissaires dans les pays neutres pour prendre langue avec les Britanniques et les Américains afin de sortir de la guerre. Mais quand Horthy, l'amiral, annonce l'année suivante à la radio la capitulation de la Hongrie, eh bien Hitler lance le plan Marguerite. La Hongrie est occupée par la Wehrmacht. Face à la progression de l'armée rouge, elle prétend faire de Budapest une forteresse, livrant sa population, terrée dans les caves, aux conséquences d'une guerre d'une extrême violence. Les Allemands mettent au pouvoir les nazis hongrois, les redoutables croix fléchées, qui se déchaînent alors contre les juifs, la gauche et les libéraux, comme Marai. En 1944, Marai, dont la femme est juive et que les croix fléchées recherchent pour le tuer, écrit « 300 000 personnes tremblent dans les maisons marquées de l'étoile jaune. Des croix fléchées, des gamins, des voyous de 16, de 17 ans, pillent ces logis, raflent leurs habitants vers les lieux de rassemblement et les péniches. Dans le froid de novembre, des groupes de plusieurs milliers de personnes marchent en silence, femmes, enfants, vieillards, en direction d'un sort inconnu. Mon beau-père a certainement péri par le gaz au camp d'extermination d'Auschwitz, où il a été déporté à la fin du mois de mai dernier. Il n'y a pas de réparation possible pour ses crimes. » Eh bien, dans ces circonstances, il en vient, Marai, à considérer la lecture, l'écriture, le travail intellectuel solitaire et retiré comme une façon de sauver ce qui peut l'être. La culture, une certaine idée de l'Europe et de sa civilisation. Je cite « De toutes mes forces, de toute ma volonté, écrire longtemps, des années durant, travailler pour le tiroir, pas seulement pour le travail en soi, ni même pour le pays, ni pour l'homme européen paralysé, mais comme un homme tombé à la mer, qui tente encore de nager, même si ses yeux se brouillent, si ses bras s'épuisent et qu'il ne voit plus le rivage. » De plus en plus, pour Marai, se présente la tentation de partir, d'émigrer. L'exil deviendra la seule issue possible lorsque, sous l'influence de Gheorghe Lukács, Marai, après la guerre, est interdit de publication par le pouvoir communiste. « À mon âge, écrit Marai, ce n'est plus si facile de changer de patrie. Pour un écrivain qui ne peut respirer autrement que dans l'atmosphère de sa langue maternelle, c'est presque impossible. Et pourtant, il faut partir, dès que possible. » Et oui, lorsqu'on appartient à une culture minorisée, à une petite nation, il existe la tentation d'écrire dans une autre langue pour demeurer malgré tout un écrivain. Le Polonais Joseph Conrad, en assumant cette décision éprouvante, est devenu, on le sait, l'un des plus grands écrivains de la langue anglaise. Et les Roumains, Cioran, Ionesco, le Tchèque, Milan Kundera, de très grands écrivains français. Mais la mission de l'écrivain d'une petite nation n'est-elle pas de faire vivre sa langue et sa culture? Et comment y contribuer depuis l'exil?
Peut-être une question à laquelle on essaiera de répondre demain, Brice.
Ah, exactement.
Voilà, je m'en doutais. Merci beaucoup, Brice, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Un tout petit mot à Rosalie Suc pour lui souhaiter plein de belles choses pour ses nouvelles aventures. Merci d'avoir été avec nous, Rosalie, pendant ces quelques mois. Dans un très court instant, on retrouve Olivier Gesbert et la Grande Table.